C'est 23.
Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, édition grippée cette semaine, je dirais. Alain McKenna ici avec son virus et Pascal Forget, l'autre bout, toi aussi, je pense qu'il y a un petit...
J'ai eu un petit rhume et j'ai eu la bonne idée de me faire vacciner contre la grippe et contre la COVID en même temps, sur le même bras. Je me suis réveillé ce matin un petit peu, beaucoup patraque, disons. J'étais un peu douteux et c'est pour ça. Et écoute, Alain, tu vas encore dire que ma foi, tu vas directement dans le vif du sujet. Mais regarde ce que j'ai à la main. Une tasse de délicieux café avec un peu de lait. Que j'ai fait avec ma machine Jura E8, qui, à la pression d'un seul bouton, m'a procuré la boisson caféinée, dans ce cas-ci, de mon choix. J'en ai besoin avec du café en grain, avec un peu de lait, juste un petit peu. J'ai choisi avec l'affichage, très simplement, la boisson que je désirais. J'ai ajusté de façon précise la quantité de lait, d'eau et de café que je désirais dans ma boisson. Et quand je veux nettoyer ma machine, c'est super facile. On appuie sur un bouton encore une fois. Il y a un nettoyeur avec enzymes qui nettoie, entre autres, le mécanisme de lait ou de la machine en général avec des petites capsules super le fun. Allez, jetez un coup d'œil sur les machines Jura E8. Il y a aussi la E6. Il y a des modèles industriels pour faire plaisir aux gens dans votre bureau chez Edica sur Saint-Laurent. Vous allez avoir beaucoup de plaisir et du délicieux café.
Donc, c'est
Réconforter avec le froid.
J'allais dire, c'est le fun l'automne prendre un café, mais nous sommes dans la première semaine de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours, le lendemain de l'Halloween, dans les grands cafés, les grandes chaînes de café de ce beau pays que nous sommes? Oui, les guirlandes de Noël et la musique de Noël ont commencé à faire leur apparition. Alors, je vous dirais pas, prenez-vous un bon café et allez... Non, je vous dirais, faites-vous un café Jura, premièrement. Exactement. Prenez un bon livre, par exemple, Chip War, le livre le nom de l'auteur m'échappe, et écoutez une chanson des Beatles.
Oui, Chip War, l'auteur, c'est... Oh là là, je l'avais pris en note ici.
Ouais, c'est mon erreur, je l'ai effacé.
Voilà, tu l'as effacé, coquin. Mais Chip War, c'est un livre qui a été recommandé par notre invité à l'émission, qui est fascinant.
Chris Miller, voilà, exactement.
Chris Miller. Denis Baudreau, qui est avec nous autres.
Oui, ben voilà, ben puis ça mène à 2 choses en fait. La première, c'est que on se croise les doigts parce qu'on va parler avec le patron canadien d'Intel tout à l'heure, Denis Gaudreau. On l'a reçu tout à l'heure, on l'a préenregistré parce que c'était une question de gestion d'horaire. Vous savez, quand on est patron d'Intel Canada, je pense qu'on a d'autres choses à faire que des balados. Mais il s'est prêté à l'exercice avec nous et on le remercie. Sauf que dans mon enregistrement, j'ai eu un petit problème. La piste audio a pas très bien suivi la piste vidéo. Et là, ils le savent pas encore chez Intel parce que j'aurais dit que c'était juste inutilisable, mais j'ai contourné le moyen. En tout cas, on a peut-être trouvé une façon. Fait que si jamais vous vous rendez au segment du milieu et vous écoutez, et on parle avec le patron d'Intel, c'est parce que ça a marché. Mais sinon, ça se peut qu'on vous parle d'autre chose. Je mets du suspense.
J'ai un bon feeling. OK, je te connais depuis un moment. Je sais que tu es assez à l'aise avec la technologie. J'ai un feeling que tu vas
Je fais podcast sur la technologie en passant.
Non, mais c'est ça. Puis t'écris là-dessus aussi depuis un moment. J'ai un bon feeling que tu vas le récupérer. Peut-être juste une question de codec et de démarrage. Parlant d'intelligence artificielle, j'ai vraiment du lien coq à l'âne, mais j'ai été assez touché. Je sais pas si t'écoutais Now and Then, la démo.
Oui, ben c'est pour ça que je disais un bon tasse de café avec un bon livre et une bonne chanson des Beatles. Qu'est-ce que t'en penses de la chanson, toi?
Ben, moi, j'ai trouvé ça assez fantastique parce qu'il y avait beaucoup de craintes. Tu sais, l'intelligence artificielle, là, des fois, on s'en sert comme accroche. Là, il faut avoir peur de l'intelligence artificielle. On va tous perdre nos boulots. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour qu'il y ait des pertes d'emploi. On l'a vu avec TVA cette
semaine.
Ouais,
ça, c'est vrai.
Donc, dans ce cas-ci, on a pu nettoyer le démo de John qui avait le piano qui était un petit peu trop fort. On a isolé sa voix. On n'a pas fait quelque chose. On n'a pas robotisé sa voix. On n'a pas inventé la voix de John Lennon.
Est-ce que c'est pas du buzz marketing? Parce que c'est pas de l'intelligence artificielle. On a juste dégagé sur une vieille cassette l'enregistrement sonore. On a dégagé la piste de piano de la piste de la voix qui était prise ensemble dans l'enregistrement. Je suis pas sûr que c'est de l'intelligence artificielle, ça.
Techniquement, je pense que c'est du machine learning.
Okay.
Ils ont pris la voix de John, puis ils ont pu l'isoler, éliminer le reste. Encore une fois, à quel point c'est, comme tu dis, de l'intelligence artificielle ou du bidouillage d'ingénieurs de son. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils ont tenté d'extraire la voix il y a quelques années, puis ça n'a pas fonctionné. Quand ils ont lancé Free as a Bird, Ils ont tenté puis en fait, on pourra pas le faire. Mais avec la technologie qui a été utilisée par Peter Jackson pour nettoyer,
ben voilà, isoler, dans le Seigneur des Anneaux ou non pas dans le Seigneur des Anneaux, ouais c'est ça.
Documentaire
sur les Beatles.
C'est ça.
Ouais, ça c'est ça.
Ils ont pu utiliser la même technologie, fait que je soupçonne qu'il y a un petit peu d'apprentissage machine, parce qu'on est, tu peux pas le faire note par note, milliseconde par milliseconde.
Ouais.
Tu fais un premier nettoyage, tu isoles et puis tu raffines ensuite. Fait que, encore une fois, ça a fait un beau buzz. J'ai écouté ça avec beaucoup de plaisir. Puis dans la vidéo qui a été lancée aujourd'hui, on peut voir les Beatles mélangés, vieux, jeunes et vieux. John, Paul et
Ringo.
John, Paul et Ringo, voilà. Et l'autre. Et le quatrième.
T'es grave,
ça passe côte à côte. C'est George, même les deux qui sont décédés. Mm-hmm. George qui sont là. George et Paul qui sont avec les Beatles vivants, jouant côte à côte. Alors, très, très drôle de pouvoir ressortir les Beatles comme ça.
Les Beatles pour le
Ça parle de techno, d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va peut-être faire... Moi, je rêve d'entendre Édith Piaf nettoyer. Parce que les premiers enregistrements, entre autres, de Frank Sinatra, il y avait des voix aiguës, un peu nasillard, ça sonne un peu... C'est enregistré en mono. Je serais curieux de voir si on avait la technologie d'enregistrement d'aujourd'hui, de Céline Dion, pour la voix d'Édith Piaf, la bonifier, la faire sortir dans toute sa splendeur.
Passer Édith Piaf à autotune, c'est ça?
Do you believe in love? C'est quoi? C'est la vie. La vie en rose. Non, mais juste la ressortir comme nette, bien précise, riche, et la mettre avec un arrangement peut-être plus moderne, des instruments qui ont plus de basses et tout. À l'époque, je pense qu'on limitait les basses, on réduisait beaucoup pour éviter que les aiguilles des micro-sillons sautent.
Ça griche,
carrément. Bien. Fait que ça donnait une technologie d'enregistrement qui était fantastique pour l'époque, mais qui était pas...
Je vais aller dans une complètement autre direction, un peu comme cette phrase-là. Je pense que ce que ça augure, cette chanson des Beatles, c'est effectivement des services, et je pense qu'il y a des gens qui en ont déjà parlé publiquement, des experts, des services musicaux où tu vas dire, je veux de la musique, là, j'ai 8 heures de musique style les Beatles, et automatiquement... Ouais. Le système va produire, générer, auto-générer à partir juste des échantillons de voix de vieilles tunes, des nouvelles tunes uniques, sur demande, sur mesure, personnalisées par la personne en question qui l'écoute à ce moment-là et qu'on s'en va un peu vers ça. Hey, j'ai goût de 8 heures là, de bureau, d'heures de bureau, de gros travail, là, de genre comme l'album noir de Metallica et là qu'il n'y aura que du gros métal, style cet album-là pendant 8 heures.
C'est ça que l'intelligence artificielle puis le machine learning et compagnie, là, certains experts pourraient nous débattre là-dessus, c'est quoi qui est quoi, mais le fait de prendre, plus on a d'œuvres de Metallica, par exemple, ou des Beatles, on prend tous les albums, on les numérise.
Ou de Joe Dassin, on va en prendre.
Ou de Joe Dassin. Pourquoi? On s'est aimé comme on se quitte. Mais tout à fait. Je pense que c'est déjà possible. C'est déjà ce que les. J'ai déjà entendu Stairway to Heaven chanter à la façon des Beatles par un gros hommage des Beatles.
Oui, on avait passé un truc, on avait parlé, je pense même, ou quelque chose comme ça. Il y avait, j'avais passé
une vidéo. Et donc, c'est très, très drôle. Puis, encore une fois, Stairway to Heaven chantait à la façon des B-52s parce qu'un gros hommage des B-52s. Ah non, c'était fantastique. Stairway to Heaven! C'était vraiment très, très drôle. Et c'est ça, c'est des gros hommages qui connaissent le répertoire par cœur de leur groupe, qui disent, écoute, on va le jouer à la façon de l'intelligence artificielle, c'est ce que ça fait, c'est ce que ça mange, et puis c'est bon pour ça. Fait que bientôt, on va peut-être avoir... on parle de la dernière vraie chanson des Beatles, mais on va peut-être en ressortir d'autres.
Alors, c'est peut-être pas fini, effectivement, parce qu'ils ont envie. Ils veulent faire de l'argent, ces gens-là.
Beatles chantent Joe Dassin.
Voilà. Alors, c'est la fin du segment Alain et Pascal parlent musique. On va passer au segment suivant, qui sont Alain et Pascal parlent d'actualité, avec notre commanditaire de segment Info Bref, que j'espère, depuis le temps que vous nous écoutez, vous les connaissez. Info Bref, c'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Les principaux événements de la journée sont résumés dans votre inbox une fois par jour, le matin. Ça se lit en 5 minutes. C'est gratuit, c'est efficace. Je remarquais que la Presse Plus, le vendredi, ils ont un quoi savoir pour avoir l'air intelligent samedi au souper de famille. Ben, Info Bref, c'est quoi savoir pour avoir l'air intelligent tous les jours de la semaine. Peu importe le repas ou votre situation. Évidemment, idéalement, vous lisez le devoir. Je peux pas ne pas le dire, mais infobref.com fait le résumé pour vous en 5 minutes. On connaît tous les bloqueurs de pub.
Oui.
Il y a maintenant les bloqueurs de bloqueurs de pub.
J'étais assez surpris d'aller sur YouTube et de voir un message qui dit « Hey, j'utilise un bloqueur de publicité sur YouTube, ça viole les termes de service. » On ne peut pas, selon les termes de service de YouTube, modifier l'offre de YouTube. Petit okay. caractère comme ça, tu peux pas la... En théorie, mais en tout cas, il laisse passer beaucoup de choses. Moi, j'utilise, entre autres, The Arrow, qui permet de remplacer les miniatures. Je vous le dis, là, The Arrow, D-E, Arrow, ça enlève les petites flèches, les faces bizarres, les petites miniatures des vidéos sont de plus en plus agressantes. C'est gênant, je trouve, ça enlève ça. En théorie, je suis pas supposé d'utiliser ça. Moi, j'ai vu Adblock, que j'utilise pour, à un moment donné, c'est trop, m'indiquait qu'il a bloqué 6300 publicités sur YouTube.
Wow!
Donc, pourtant, j'utilise pas YouTube tant que ça. Je passe pas des heures par jour à regarder des vidéos de la musique sur YouTube. Des fois, je regarde mes YouTubeurs préférés là, qui montrent, entre autres, du café, des trucs comme ça. Et donc, j'ai vu que c'était ça comme ça. Mais là, c'est fou parce que dans les VPN, il y a maintenant l'intégration. J'ai désactivé Adblock. Ça continuait de me mettre le message. J'ai réalisé que dans mon VPN, j'avais aussi un bloqueur de pub. Et dans mon routeur, j'ai aussi un bloqueur de pub, j'avais testé ça. Alors je me dis, il va falloir que je désactive beaucoup de niveaux. Évidemment, je peux juste le faire sur YouTube. Je me permets de faire un petit bémol. Les bloqueurs de pub, quand trop, c'est trop. Mais si votre site a trop de pubs, il y a peut-être un problème avec les sites que vous consultez. Parce que les sites plus légitimes, il va avoir 2-3 pubs, ce ne sera pas trop agressant. Entre autres, mon site, je fais un petit revenu publicitaire à chaque mois, minuscule. Si jamais vous avez la gentillesse de désactiver vos bloqueurs de pubs, le Devoir font des revenus publicitaires, entre autres, désactiver vos bloqueurs de pubs là-dessus, ça peut être une belle façon.
C'est pas irritant autant que les sites à clic qui ne mettent que 6 couches publicitaires par-dessus votre petit morceau de texte ou de vidéo. Évidemment, les sites de contenu piraté ne se gênent pas pour mettre plus de pubs que pas assez. Donc, c'est peut-être que vous êtes pas sur les bons sites si vous avez un problème de publicité. Ouais.
C'est ça, peut-être, c'est ça. Fait que regardez les sites légitimes que vous consultez, désactivez. Mais dans ce cas-ci, YouTube vous dit que vous ne pourrez plus utiliser de bloqueur de pub dessus. Et ça nous incite à utiliser le service YouTube Premium.
Ah ben,
des fois, je le considère. Des fois, je le considère, mais c'est 12,99 par mois.
Ouais, puis c'est pas le meilleur service musical, malheureusement, ou service...
Ben, c'est ça, ça te donne la musique sans coupure, tu peux écouter en arrière-plan de la musique. Je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent YouTube pour la musique, ça me surprend toujours qu'il y a des pubs, ça interrompt, ça coupe. Ça permet d'écouter des vidéos hors connexion, mais 12,99 par mois, c'est presque le prix de... Netflix.
Oui,
c'est plus cher que Amazon Prime qui donne accès à beaucoup de vidéos et de services comme ça. Donc YouTube Premium, 22,99 par mois pour une famille. Il y a un tarif étudiant, 7,99 par mois. Il faut prouver qu'il est étudiant. Mm-hmm. Je sais pas exactement de quelle façon. Pour pas avoir de pub.
Ouais. Ben, ils ont besoin de faire des sous avec YouTube Premium, avec YouTube tout court.
Ben oui. Ben, c'est ça. Ils veulent faire des sous. Si les gens, en plus, bloquent les pubs, c'est sûr que les revenus publicitaires sont moins là.
Voilà.
C'était la petite surprise de ce mois-ci.
On va parler d'intelligence artificielle un instant parce qu'il s'est passé pas mal de choses en 2-3 jours cette semaine. Il y avait, d'ailleurs, jeudi, le 2 novembre, un forum sur toute la question de l'encadrement de l'intelligence artificielle ou une utilisation responsable de l'intelligence artificielle au Québec. C'est le Conseil de l'innovation du Québec qui a regroupé des centaines et des centaines de consultations et de recommandations, de contributions de gens, d'experts, de spécialistes, de gens du public, du monde issu, du monde des affaires, de partout, pour faire une espèce de condensé de ce que le public, les gens aimeraient savoir ou aimeraient que le gouvernement fasse, en fait, éventuellement pour éviter les dérapages avec l'intelligence artificielle au Québec. Donc, on se préparait à ça, on discutait de qu'est-ce que le public veut, qu'est-ce qui a été reçu, et ainsi de suite. Ce qui en sort, c'est qu'évidemment, les gens veulent savoir ce qu'ils ont devant eux. Je pense que c'est normal et c'est un peu prévisible. On veut pas se faire leurrer, on veut que ce soit bien identifié quand on a du contenu produit par l'intelligence artificielle. On veut pas empêcher de l'utiliser non plus. On veut pas, vous savez, on parle, un bel exemple, c'est toujours... les médecins, les publications spécialisées médicales, ils produisent des articles des centaines par semaine. Et pour un médecin qui veut se tenir à jour sur la meilleure façon de traiter une maladie, il faut qu'il lise tout ça en genre une journée. Et c'est comme assez impossible. Mais il existe des outils d'intelligence artificielle qui peuvent résumer tout ça en quelques pages. Et ça, tu veux pouvoir utiliser ça, mais tu veux que l'outil soit fiable. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est un cadre légal qui rendrait ça possible. sans que l'intelligence artificielle soit non fiable, mais aussi puisse être utilisée à des fins malicieuses autrement. Dans la foulée, le ministre fédéral de l'innovation et du développement économique, François-Philippe Champagne, est allé en Angleterre pour aller signer la déclaration de Birchley, ou je sais pas comment ça se prononce, qui se veut justement un cadre où une trentaine de pays ont signé pour s'engager à mettre les balises pour une utilisation de l'intelligence artificielle qui serait sûre et responsable, encore une fois. Et parce que ça faisait longtemps que ça traînait et qu'on n'entendait pas parler, mais pour se couper tout ça, c'est le président américain Joe Biden qui a lui-même fait un décret présidentiel. C'est un autre niveau d'agissement parce que, évidemment, s'il avait fallu qu'il attende après le gouvernement américain, le reste du processus n'aurait jamais eu lieu parce qu'on le sait que le Congrès et la Chambre des représentants sont pas nécessairement du côté du président en ce moment. Donc, c'est très difficile de faire passer des lois dans le processus normal. Donc, M. Biden a passé un décret en disant « Oups! On va créer un conseil des sages sur la sécurité de l'intelligence artificielle qui va déterminer qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas sage dans cette industrie-là. Et on veut surtout protéger la sécurité nationale. Vous savez, les États-Unis, comment ils sont. Ils veulent aussi protéger les citoyens d'intelligence artificielle qui serait méchante. Les fameuses rogue AI dont parlent les gens comme Yoshua Benjo depuis plusieurs mois déjà. Et là, on a appris ensuite dans une entrevue à PBS chef d'état-major, dont son nom m'échappe, que ce qui a fait allumer le président Biden, c'est qu'il s'est assis dans son salon présidentiel avec un bol de popcorn présidentiel et il a regardé le plus récent, c'est pas un épisode parce que c'est un film, mais de Mission Impossible avec Tom Cruise. Mission Impossible, bilan mortel, première partie. Là, ça commence à être du marketing, même que dans le titre. Ou vraiment, Ethan Hunt, qui est l'agent, n'est-ce pas, qui incarne Tom Cruise dans ce film-là, doit combattre une méchante intelligence artificielle. Et là, le président américain a eu peur et s'est dit, ça y est, je fais un décret. Tout ça pour dire que si jamais vous utilisez l'intelligence artificielle plus tard et que ça fonctionne comme vous voulez et que ça sauve des vies, ainsi de suite, faudra remercier qui? Tom Cruise, c'est quand même pas rien.
Ouais. Le président qui a fait les décrets contre les robots tueurs après avoir vu Terminator, celui qui... Je sais pas.
Quel autre il y a un président qui a fait un décret présidentiel contre la pluie de hamburgers. Après le film, il va pleuvoir des hamburgers.
Ouais, et voilà, c'est ça. Selon les films qu'on regarde, on a des influences. Mais j'ai très drôle. Je sais pas si t'as aimé le film.
Ben, je l'ai pas encore vu celui-là. Je suis en retard dans ma liste de films. Il y a aucun doute, mais ça doit être extrêmement divertissant. Je n'en doute pas un instant.
Très divertissant. J'ai trouvé que c'est un peu plus lent que je m'attendais, et je me permets de dire que même si Tom Cruise fait ses cascades, c'est tellement couvert d'effets spéciaux qu'on ne ressent pas ce qu'on a vu. La cascade dans la moto, entre autres, tu l'as sûrement vu sur YouTube. Brut, avec les vrais... et là, tout est maquillé avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est moins impressionnant de le voir en salle, alors que c'est en IMAX et tout, que de le voir sur son petit écran en vrai. Il y aurait... Je trouve que d'ajouter trop de couches là, de nuages artificiels puis de trucs comme ça, ça diminue l'impact viscéral des cascades.
T'as entièrement raison, et c'est pertinent de parler de ça, parce que, évidemment, bon, il y a des cadres législatifs qui s'en viennent dans la plupart des pays auxquels vous pouvez penser, mais cette semaine, il y a une mise à jour. D'ailleurs, si vous voulez goûter à cette intelligence artificielle et que vous l'avez pas encore fait, et que vous avez un ordinateur Windows assez récent, il y a une mise à jour de Windows 11 qui a été lancée le 1er novembre. Donc, si vous ouvrez vos paramètres et que ça n'a pas été fait déjà, vous pouvez le faire vous-même. Ça installe la fameuse application Copilot, basé sur le modèle de langage GPT d'OpenAI, qui vous donne une petite intelligence artificielle dans la poche, dans votre PC. Mm-hmm. D'ailleurs, ça vaut la peine de l'essayer, et ça s'intègre aussi aux outils de la suite Office, entre autres, qui maintenant s'appelle Microsoft 365, là, mais qui vous permettrait de demander de la génération de texte ou de classeur Excel ou chose comme ça, c'est le fun. Ben, t'en sais plus que moi là-dessus, là, mais
Écoute, c'est très drôle parce que je me retiens. Là, je donne la formation pour ceux qui ne savent pas. Toi, t'es au devoir et tout. Mais moi, je donne la formation sur Microsoft 365 dans mes temps perdus. On prépare l'intégration de Copilot dans son Word, dans son Excel, dans son PowerPoint. Mm-hmm. Déjà, tu peux demander à Copilot de te créer une automatisation avec Power Automate. Tu peux lui demander, génère-moi un brouillon de texte en utilisant les textes que tu as déjà créés. Et ça, c'est extraordinairement puissant. Quand c'est ta 50e lettre de soumission, ou de, ben, prends-moi une lettre de soumission avec les éléments que je fais déjà, les styles de phrases, mes tournures, tu as 80% de ton travail qui est fait en deux clics. Et voilà. Après ça, tu raffines, tu envoies, et ça peut même te proposer, écoute, les incohérences et les erreurs dans ton texte. Ce que Antidote pouvait faire, entre autres. Mm-hmm. Il y avait un détecteur anti-oups qui disait, si tu dis le lundi 12 décembre, c'est pas un lundi. Et l'intelligence artificielle va pouvoir te corriger ce genre de choses-là. Si tu fais une soumission, il va pouvoir te dire, hey, t'as oublié de mentionner le coût de telle affaire, parce que d'habitude, tu l'ajoutes pas. Donc, l'intégration de l'intelligence artificielle dans son... et je pense que ça vaut la peine pour les petites les organisations là, de travailler là-dessus pour préparer le cadre, encore une fois, légal, la loi 25, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas. Mm-hmm. Mais je vous donne le conseil, là, puis je dis pas ça parce que je donne la formation là-dessus, mais si vous utilisez Microsoft 365, considérez nommer quelques personnes dans votre organisation pour tester les possibilités de l'intelligence artificielle. Ça pourrait complètement changer la productivité dans vos organisations.
Voilà. Passer de Windows à iOS, on va parler d'iPhone. Il y a, je sais pas à quel point c'est, on en voit pas beaucoup. On en parle tout le temps. Il y a tout le temps des attaques et des risques et des failles et tout ça, mais là il y a une nouvelle qui fait planter les iPhones à distance. Est-ce qu'il faut avoir peur parce qu'est-ce qu'on va courir à nos téléphones? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, moi je trouve ça assez surprenant parce que encore une fois les gens surestiment. C'est sûr que les failles de sécurité du côté iOS sont habituellement rapidement corriger et tout. Et là, c'est pas une faille qui implique l'intelligence artificielle. C'est pas une méchante intelligence artificielle qui s'introduit de son téléphone. Il y a un monsieur qui est un spécialiste en sécurité qui utilisait son téléphone dans un train. Le téléphone se met à avoir des pop-up, comme quoi il y a un appareil Bluetooth qui cherchait à se connecter, au point de rendre l'appareil inutilisable. Puis à un moment donné, le téléphone a planté, puis il n'a pas pu se reconnecter. C'était un utilisateur qui utilisait le Flipper Zero. Le Flipper Zero, c'est un petit appareil qui est un couteau de poche, un couteau suisse pour les testeurs de sécurité et les bidouilleurs. Un petit appareil open source qui diffuse sur plusieurs fréquences radio. Il peut entre autres émuler des cartes RFID, des cartes NFC, des ouvre-portes de garage. Il y a même un émetteur infrarouge, toutes sortes de capteurs pour tester des circuits. Vraiment un beau petit appareil. Et ce qu'il faisait, c'est que ce petit appareil-là, avec une mise à jour de son logiciel, c'est un code ouvert, donc tu peux installer ce que tu veux, il y a un firmware qui s'appelle Flipper Extreme, qui a un bouton iOS Attack. Et tu peux, paf, te mettre à diffuser autour de toi des demandes de connexion Bluetooth au point de faire planter certains appareils. Ça dépend de la mise à jour de ton téléphone, évidemment. C'est un type d'attaque qui était possible depuis longtemps, mais ça demandait un équipement coûteux. Et ça demandait un peu d'expertise en signaux radio, puis en transmission, puis de données. Mais là, avec le bouton, là, avec le Flipper, là, paf, un bouton, puis n'importe qui. Et là, tu vas dire, ça doit coûter très cher, le Flipper Zero. Écoute, j'ai été surpris, c'est $265.
Oh.
Fait qu'un pirate informatique pour $265 peut se mettre dans le métro, peut se mettre dans un endroit public et bousiller tous les téléphones autour, tous les iPhones autour. Évidemment, il va sûrement avoir des correctifs de sécurité. En ce moment, la parade, ce serait de désactiver Bluetooth dans son téléphone pour éviter. Là, évidemment, ça coupe les écouteurs, ça coupe toutes sortes de choses comme ça. Évidemment, ça va être de mettre à jour son téléphone. Il va sûrement avoir une parade pour éviter les connexions répétées, abusives, ainsi de suite. Alors, je trouve ça assez fascinant. Évidemment, la nouvelle parle d'iPhone parce que l'utilisateur qui l'a révélé avait un iPhone, mais ça fonctionne aussi avec les iPads et ça fonctionnerait aussi avec les téléphones Android. Donc, ça se peut que dans un endroit public, des petits malins s'amusent avec un appareil qui coûte $265. Ce que j'ai lu en cherchant sur le Flipper Zero, ce petit appareil-là n'est pas que maléfique. Évidemment, ça peut aider des spécialistes en sécurité à tester différentes options pour s'assurer de rendre leurs appareils plus sécuritaires. Et j'ai vu que le Flipper Zero permettait d'envoyer un signal pour désactiver les drones robots employés par l'armée russe.
Oh boy, OK.
Donc, tu peux envoyer un signal, puis poup, le drone robot, qui est un truc qui paraît-il que tu peux trouver sur AliExpress pour $500, tu as un signal radio qui peut désactiver une parade pour $265, équivalent de $265 canadiens, c'est pas pire pantoute. Il y a des bons usages de cet appareil-là. Mais ça
le grand jeu du de la course entre le chat et la souris, hein, c'est ça la sécurité informatique. Il y a toujours c'est quelque chose qui apparaît de plus qui était pas là avant. Il faut toujours courir après. Rapidement, on va parler d'un truc qui va changer de sujet, parce qu'on va parler de Google Maps et d'énergie solaire. Un petit bout de temps que j'avais vu ça passer, mais là, c'est de plus en plus, ça fait jaser, c'est mal, pas mal. Si vous cherchez, si jamais vous voulez installer sur votre maison des panneaux solaires pour avoir une certaine autoproduction autonome, en tout cas, production d'énergie, ça se fait très bien. Ça prend une batterie idéalement pour stocker ça et ensuite vous redirigez ça dans le panneau électrique de votre maison. Mais pour le faire de façon optimale, c'est compliqué. Il faut savoir où va le soleil, où la chaleur, le toit, l'espace sur votre terrain, puis ainsi de suite. Et pour rendre ça plus facile, Google a intégré automatiquement dans Google Maps un outil qui vous permet de, qui va vous dire en fait où installer vos panneaux solaires pour avoir une utilisation optimale. Ça utilise c'est un paquet de systèmes. Là, il y a de la modélisation 3D, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'imagerie satellite. Parce qu'évidemment, ça repose sur la partie satellite de Google Maps. Vous savez, quand on utilise cette fonction-là, on peut agrandir l'image jusqu'à presque savoir qu'est-ce qui se passe dans le jardin, quel genre de légumes les gens font pousser. Là. C'est comme un niveau de détail un peu intense. Mais grâce à tout ça, l'application Google Maps peut savoir où se trouve le soleil, où passe le soleil dans l'année, quel genre de chaleur et quel genre d'énergie vous pouvez espérer produire avec des panneaux solaires dans ce contexte-là. C'est accessible publiquement. Évidemment, c'est conçu d'abord pour les installateurs, donc les professionnels, pour les aider dans leurs tâches. Arriver chez le client et déjà savoir où est-ce que ça va se passer, cette installation. Évidemment, ça cible aussi le marché américain parce que chez nous, l'autonomie énergétique est moins en demande et moins populaire au Québec. Peut-être au Canada, je suis pas certain, mais au Québec, pas mal moins parce que l'énergie coûte pas cher, parce que le réseau est fiable et ainsi de suite. Mais aux États-Unis, la question, et même ailleurs dans le monde, si vous allez en Asie, dans tous les pays d'Asie, il y a toutes les maisons en Asie ont des panneaux solaires. Pas des grosses affaires, mais juste pour dire, au cas où, en Allemagne, ils sont très forts sur le solaire. Bref, partout sauf chez nous, finalement, on trouve des solutions pour se détacher de, ou en tout cas être quand même relativement autonome au cas où le réseau public tombera en panne. Donc, ça fait partie de ça. Et là, on a offert cette application sur Google Maps qui permet justement d'optimiser cette installation-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes de ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez voir ça sur Google Maps. C'est gratuit, c'est accessible, c'est en ligne dès maintenant. Ça fait le tour des longues actualités de la semaine. Pascal, on aurait pu en parler encore un petit peu, mais on va prendre une pause. On va essayer d'insérer juste ici l'entrevue qu'on a fait avec Denis Gaudreau d'Intel Canada. Si jamais on revient puis on vous parle d'autre chose, parce que clairement, la vidéo, j'ai pas réussi à la convertir.
Ça va bien se passer, Alain. Ça va bien se passer.
Ouais, tu vois, j'ai un petit stress, mais je pense qu'on devrait y arriver, effectivement. J'ai bon espoir. Je vais dire ça comme ça. Donc, on va parler de Wi-Fi 5. Excuse-moi, on va parler de Wi-Fi 7, parce que le 5, ça fait longtemps que c'est passé. On va parler de Thunderbolt 5, on va parler de Intel Core de 14e génération, d'intelligence artificielle, tout ce qui fait vibrer à Intel ces jours-ci. On parle de ça avec Denis Gaudreau, qui est le directeur national pour le Canada d'Intel. Tout de suite après ça, restez avec nous à une tasse de tech.
De retour à une tasse de tech. Avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Et bienvenue à une tasse de tech, édition de l'automne, édition colorée, je vais dire ça comme ça. Il reste encore étonnamment beaucoup de feuilles chez nous, je sais pas chez vous, messieurs, mais ça étire la saison. Vous savez, le mois de novembre, c'est un mois triste et morne d'habitude, mais nous, c'est un mois qui est énergisant parce que c'est le début de l'amorce de la période des fêtes où là, on commence à voir des nouvelles technologies apparaître, des nouveaux appareils. Et cet automne, on est particulièrement gâtés parce qu'il y a du stock et du costaud qui s'en vient. Je vais vous dire seulement quelques expressions du moment. Je veux dire, Wi-Fi 7, hein, Pascal, quand même pas rien.
Wi-Fi 7, connexion
Thunderbolt 5.
Plus rapide.
J'ai vu passer un VPU dans la documentation des gens d'Intel récemment, donc un processeur pour de l'intelligence artificielle. Il y a du stock. Et pour en parler, pour démystifier, parce que ça peut peut-être influencer vos décisions d'achat pour les fêtes, on reçoit le directeur national pour le Canada d'Intel, Denis Gaudreau. Bonjour, Denis.
Ben oui.
Oui, bonjour Alain, bonjour Pascal. Merci
bonjour, de me recevoir.
Merci de m'accueillir.
Merci. Je suis heureux de te remettre le chapeau officiel qui te revient et non pas de dire des bêtises. mais oui, parce que ça, mais en fait, le lapsus n'est pas banal parce que Intel fait une grosse poussée dans l'intelligence artificielle ces jours-ci. Je regardais la documentation sur les processeurs qui s'en viennent, la prochaine génération. La plateforme Intel Evo, entre autres, qui vient avec une liste de prérequis pour bâtir des ordinateurs que les gens vont pouvoir utiliser plus facilement, plus rapidement, puis ainsi de suite. Et on insiste beaucoup sur l'introduction d'outils qui permettent de mieux utiliser l'intelligence artificielle. À travers tout ce dont on peut parler dans les prochaines minutes, je ne sais pas si on peut commencer avec ça. Qu'est-ce que ça représente pour vous chez Intel, cette poussée-là vers l'intelligence artificielle?
Ouais, c'est vraiment un changement de paradigme, là, ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle. Là. Puis nous, chez Intel, notre position, c'est vraiment d'inclure l'intelligence artificielle à la grandeur de nos produits, nos technologies, non seulement à l'intérieur, on va dire, des processeurs ou des GPU ou de certaines architectures, mais vraiment au travers de toute notre gamme de produits et technologies. Donc, d'inclure autant des fonctions qui vont permettre de faire du AI ou encore d'inclure, comme tu mentionnais, là, le VPU ou des NPU, là, certains accélérateurs à l'intérieur de notre architecture qui vont permettre de faire du AI, autant sur un client, on l'a vu, le Meteor Lake là, qui va être introduit à la mi-décembre, ou encore autant tout ce qui est dans le data center avec notre plateforme Gaudi ou des GPU, là, le Xeon Max et choses là, mais également une suite de logiciels qui va permettre d'utiliser le AI. Là. Un exemple, c'est avec la 14e génération de Core i9 i7 qu'on a introduit. Là. On a introduit des logiciels de AI qui permet de faire du si on veut d'overclocker notre plateforme avec le AI. Donc, de faire des recommandations, parce qu'on sait que c'est quand même assez complexe faire de l'overclocking. Donc, il y a un engin AI hardware, mais en plus de ça, il y a des logiciels qui vont permettre, si on veut, de regarder c'est quoi votre système, quelle sorte de cooling vous utilisez, le heatsink, toute la plateforme, si on veut. Puis, suivant cette recommandation, votre plateforme, voici les recommandations qu'on vous fait pour overclocker votre système. Donc, c'est vraiment une plateforme complète là, de bout en bout, hardware et logiciel dans toutes nos gammes de produits. Là. Comme on disait avec Meteor Lake, qu'on va introduire le AIPC, là, qui était comme qui a eu beaucoup d'attention là, parce qu'on ça s'en vient de plus en plus là, sur le client, puis avec les assistants personnels, puis ces choses-là. Il y a un paquet d'autres usages qui vont utiliser. Ouais.
Ben ça, c'est vraiment le niveau zéro de les gens qui veulent un ordinateur extrêmement performant vont pouvoir, plutôt qu'eux-mêmes, trouver le bon réglage pour surcadencer. Je pense que le terme français officiel, c'est surminuté, mais c'est un terme que personne n'utilise jamais.
Et surminuté, exact.
Mais bref, pour aller chercher le gain de performance optimal à tous les coups, on va pouvoir confier ça à ces algorithmes d'intelligence artificielle ou à ces processeurs qui sont inclus à même le chip, en fait, parce que c'est un système sur puce. Là. C'est littéralement tout intégré sur la même carte. Là.
C'est ça, exact.
Et je vais dire, Pascal, toi, tu vas pouvoir le tester de première main.
Intel, je vous remercie tellement. Vous m'avez envoyé la puce, vous m'avez envoyé la carte mère et l'option d'intelligence artificielle pour optimiser son système. C'est vraiment génial parce que je vois sur Internet plein de gens qui essaient d'overclocker. Puis là, tu as besoin quasiment là de mesurer le voltage, l'ampérage et tout. Dans ce cas-ci, bam, on peut tout simplement optimiser. Puis ça vaut même pour la mémoire vive qui tient compte de la température de sa mémoire si elle surchauffe en DDR5 et combiner, et ça j'espère, ça je capote un peu, ça permettrait de combiner, de tirer le meilleur de mémoire vive qui n'est pas de la même sorte. Donc tu pourras avoir de la mémoire vive de différents types, de différentes vitesses, mettre ça dedans, puis l'intelligence artificielle va tirer le meilleur de cette combinaison-là. Ça, je vais le mettre à l'épreuve. J'ai très, très hâte de voir parce que j'ai des mémoires vives de différentes capacités, puis on va voir ce que ça va permettre d'optimiser.
Oui, lorsque tu vas l'utilisateur, tu vas voir que c'est assez puissant. Là. Les recommandations qu'il va te faire, là, la liste est assez exhaustive.
Il y a aussi des applications, je pense, plus terre à terre. Il va y avoir de meilleures gestions, je pense, des caméras vidéo, des caméras web, des choses comme ça, à intégrer à même la plateforme désormais. Là.
Exact, c'est ça. Ça, c'est l'utilisation, on va dire, pour monsieur tout le monde, là, avec les conférences vidéo, puis le télétravail, ces choses. C'est clair que comme on utilise la plupart des gens, là, si on veut mettre le background un peu flou, ça utilise déjà le AI, ce genre de choses-là. Mais ce qu'on va voir, c'est la correction du regard. Habituellement, au lieu de regarder la caméra, souvent on regarde l'écran, on parle aux gens, puis là, de corriger, on dirait qu'on s'adresse aux gens en regardant la caméra au lieu de vous regarder si on veut à l'écran. Là. Puis tout ce qui est noise reduction, la réduction du bruit d'arrière-plan, ces choses-là. Donc, ça va. Puis également, beaucoup d'utilisation, on va voir pour la sécurité, donc d'être beaucoup plus proactif, si on veut, de faire des recommandations. Également, pour les entreprises, on va voir beaucoup. Le terme exact, c'est du AI Ops, donc d'utiliser tout ce qui est pour la gestion des postes de travail à distance, là, qui est un gros élément lorsqu'on est dans un environnement corporatif, là, la façon dont on va gérer les postes pour les problématiques, les mises à jour, puis également tout ce qui est sécurité. Donc, avoir des études AI là, qui vont prendre ces décisions-là seules, puis qui vont être beaucoup plus intelligents en fonction de l'usage de l'usager. Dire, OK, lui, son pattern, la façon qu'il utilise son PC, c'est de telle façon. Donc, on peut faire une mise à jour à partir de telle heure. Et non pas, on envoie une mise à jour à tout le monde à 10 heures le soir. Il va vraiment être capable de faire ça de façon individuelle en fonction de l'usage que le AI du PC. Là. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui vont venir changer la façon dont on utilise notre client là, avec l'intelligence artificielle, là, puis qui ne seront pas nécessairement faites dans le data center comme il y a beaucoup d'usages présentement avec le AI. Là.
Il y a un truc, puis c'est une question, c'est plus à titre personnel parce que je suis curieux par rapport à ça. Tu sais, à une autre époque, on a inventé le mot Wintel pour vraiment symboliser, incarner la liaison, le lien qui existe entre Intel et Microsoft dans le développement des PC, puis ainsi de suite. Et je voyais dans la définition d'applications d'IA, entre autres de la nouvelle génération de processeurs chez vous, mais aussi de la plateforme Evo, dont on parlera peut-être aussi dans la foulée, cette relation avec Microsoft continue d'être assez forte. Et vous bénéficiez, j'imagine, de ce que vous faites conjointement avec eux pour intégrer dans Windows, entre autres, les applications que vous faites. Est-ce que c'est toujours cette même relation est toujours aussi bonne entre les deux entreprises?
Ben, c'est clair que la relation est toujours aussi bonne, on va dire, là, parce que c'est le joueur dominant, si on veut, dans les systèmes d'exploitation. C'est clair qu'il y a d'autres joueurs sur le marché qu'on va travailler avec Linux, différents joueurs, mais la relation Microsoft est très importante. Puis, d'autant plus que si on regarde le rôle du système d'exploitation, soit de quelle façon utiliser une architecture multicore, le NPU, tout ce qui est AI, ben, le système d'exploitation a un grand rôle. Mais nous, l'hardware, beaucoup de choses vont être faites au niveau du hardware, donc qu'il y ait une bonne synergie entre les deux organisations, que eux, leur caractéristiques pour leur amélioration logicielle permet d'utiliser le maximum du hardware avec ce que nous on fait du hardware, là, que ce soit pour la sécurité ou le sans fil, toutes ces choses-là.
C'est un truc que je pensais parce que Intel Evo, c'est ça, je pense que vous le présentez comme une plateforme. C'est moi ce que je vois, c'est une série de prérequis pour qu'un ordinateur soit certifié Evo. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réveille, il sorte de veille très rapidement. Je pense qu'on va dire en moins d'une seconde. Il faut qu'il y ait une certaine durée d'autonomie je veux dire environ 10 heures minimum. Il y a une liste de prérequis comme ça qui sont extrêmement intéressants. C'est aussi une plateforme évolutive. Je pense qu'il y a des cibles justement par rapport à la performance, à l'autonomie, ces choses-là qui évoluent dans le temps. Et pour que ce soit effectif, il faut que vous parliez avec non seulement, dans ce cas-ci, Microsoft pour Windows, mais aussi les fabricants de PC. Comment se déploie cette plateforme-là? Est-ce que en ce moment, les appareils Evo en marché se conforment à ce genre de prérequis-là? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Absolument. On a lancé la plateforme Evo là, en 2019. Mm-hmm. L'idée, c'est un peu d'aider les gens justement à faire une meilleure sélection lorsqu'ils regardaient puis ils magasinaient pour un nouveau portable, autant consommateurs que dans les organisations d'entreprise. Ouais. Parce que c'était difficile avec toutes les caractéristiques, ces choses-là. Fait que nous, ce qu'on a fait, on a interviewé un paquet de gens, on a regardé une multitude de façons que les usagers ont utilisé leur PC, puis on a extrait les caractéristiques, on va dire, les plus importantes, là. Soit quelqu'un qui travaillait de la maison, étudiait de la maison, ou quelqu'un qui est toujours, on va dire, mobile on the go, là, qui est toujours en train de se déplacer, les gens qui vont créer du contenu, c'était quoi les prérequis, les choses qui revenaient, bon, c'était une performance, mais une performance qui était variable. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a produit le P-Core, le E-Core, une architecture hybride qui permet beaucoup de performance, ou une performance continue, mais qui va à permettre d'avoir une durée de vie de batterie qui va être beaucoup plus grande, donc la durée de vie de la batterie, permettre le chargement rapide, c'est encore une chose qui était hyper importante pour l'usager, que je suis capable de charger mon portable extrêmement rapidement, le temps, comme tu dis, de se réveiller du sommeil de la plateforme, la connectivité, soit sans fil ou avec fil, ou tout ce qui est Thunderbolt, et ensuite de ça, ben, le format, si on veut, physique. Lorsqu'on voit qu'une plateforme Evo, ben, nous, on a établi certaines caractéristiques par rapport à tous ces éléments-là. Puis, on va travailler avec tous les manufacturiers. On va dire, si vous voulez rencontrer, si on veut, le branding, l'image et la marque Evo, vous devez vous assurer d'avoir le minimum dans ces spécifications de ces différents éléments. Puis ça assure à l'usager d'avoir une plateforme premium là, en fonction de leurs besoins. Puis comme tu mentionnais, Alain, c'est une plateforme qui est évolutive parce que ça a commencé en 2019, la technologie évolue. Fait que nous, les prix évoluent dans le temps là, avec les nouvelles, mettons, on va dire Thunderbolt 5 ou Wi-Fi 7 qui s'en vient. Bon, mais les prochains niveaux vont inclure ce genre de technologie-là.
Ben oui, ben écoute, parlons-en parce que tu en parles déjà. On est déjà un petit peu mêlé avec tous les différents ports USB. Là, on apprend. Ceux qui ne savaient pas vont l'apprendre, mais il y a les ports USB physiques. Il y a le USB-A qui était. Il y a eu pendant un bout de temps le mini, le micro. Là, on est rendu à USB-C. Il y a les normes de débit USB-2, USB-3, ainsi de suite. Là, on parle d'USB-4. Et là-dessus s'ajoute la norme Thunderbolt, qui est une espèce de super port USB, je veux dire comme ça. Et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ça m'apparaît comme ça. Et là, on parle déjà de la version 5 de Thunderbolt qui s'en vient. Qu'est-ce que ça représente? Ça doit être énorme comme changement, là.
Ouais, c'est un gros changement, là, effectivement, parce qu'auparavant, Thunderbolt 4, si on veut la vitesse historique, on parlait de 40 gigabits par seconde, puis on voulait ça à 80 gigabits par seconde, mais encore en bout, si on veut, on va être capable d'aller jusqu'à 120 gigabits par seconde. Donc, beaucoup plus de bandes passantes, si on veut, par rapport à ce qu'on avait déjà. Fait que ça va ouvrir des nouveaux usages qu'on va voir, là. Donc, être capable de connecter jusqu'à 3 écrans de 4K ou encore d'avoir des écrans de gaming là, des à haute fréquence, à 540 Hz. Et également, capacité de charger via le port Thunderbolt jusqu'à 240 watts. Avant, c'était 120, 110, 100.
Ben on va s'électrocuter sur son ordinateur, ça se débile. On va porter des gants pour jouer.
Ben, c'est ça, pour brancher ses fils, il va falloir s'isoler, se grounder. Puis,
un des gros changements, c'est que je suis convaincu que vous utilisez des petits dockings, justement, Thunderbolt, là, qu'on prend notre prise USB-C, mais là, ça va ouvrir des nouveaux usages parce qu'on va tellement avoir beaucoup plus de port pour les écrans. On va être capable d'utiliser des cartes graphiques externes parce que là, on devient avec PCIe Gen 4 intégré, puis avec une capacité, encore une fois, de chargement beaucoup plus grande. Donc, on va avoir des nouvelles façons, si on veut, d'utiliser le docking, là, puis d'étendre, si on veut, la capacité, puis encore une fois, les disques durs externes ou encore des dockings qui vont intégrer des SSD. On va voir ça de plus en plus.
Il y a un truc par rapport au Thunderbolt, c'est que, et tu me diras peut-être en fois que je me trompe, mais Apple a poussé fort sur ce brand-là. Ils l'ont utilisé rapidement, le Thunderbolt, mais c'est un truc qu'Intel développe depuis longtemps et qui m'apparaît moins utilisé en marketing du côté des PC. Mais est-ce qu'à un moment donné, il va falloir se réapproprier ce brand-là ou si ça vous affecte pas tellement, ça, qu'on ait ce système de Thunderbolt et d'autres marques?
C'est un bon point que tu apportes parce que nous, Intel, si on regarde traditionnellement les gens, en gros, lorsqu'une personne achète un produit ou une technologie Intel, okay, non seulement il va avoir un bon produit, une bonne technologie pour ses besoins, mais en plus, il nous permet à nous, là, si on veut, de créer des standards dans l'industrie qu'il n'y a personne d'autre qui crée. Parce que tu mentionnais Thunderbolt, c'est quelque chose qui sort des laboratoires d'Intel. Apple était dans les premiers utilisés parce que la bande passante était très intéressante pour tout ce qui était les créateurs de contenu, si on veut. Là. Ouais. Historiquement, si tu regardes tout ce qui est sorti de nos laboratoires, là, tu sors Ethernet des années 80, USB, le Wi-Fi, DDR, PCI Express, c'est tous des standards qu'Intel à créer dans un laboratoire puis qu'on a ouvert à l'industrie. Fait que lorsque quelqu'un choisit un produit Intel, non seulement il y a un bon produit, mais il nous permet d'enabler, d'activer, si on veut, l'industrie vers des standards qui fait avancer la technologie, qui permet aux gens de créer des nouvelles choses et de leur vie. Là. C'est quelque chose souvent que je trouve qu'on n'a pas assez de crédit par rapport à tout l'effort qu'on fait dans l'industrie. Autant notre contribution, on est numéro un contributeur dans le kernel de Linux. Tout ce qui est dans l'OpenStack, pour toute la cloud, on est dans le top 5 dans le contributeur. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, le grand Intel contribue. Et qu'encore une fois, à la base, nous, on est une compagnie qui fait des semi-conducteurs, puis c'est notre core business. Mm-hmm. C'est un écosystème qui est nécessaire, qui doit suivre notre cadence de développement, autant dans la mémoire, dans le I.O., tout ce qui est le sans fil, les connectivités. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là.
Ah oui, quand je veux dire, moi, je vous remercie pour les Thunderbolt, le port Thunderbolt 4. En tout cas, ça a un petit peu changé ma vie au bureau, ça, il n'y a aucun doute.
Et oui, puis là, avec le Thunderbolt 5, on va aller encore plus vite à transférer ses données, charger ses appareils, ainsi de suite. Tu parlais de transmission Wi-Fi. Wi-Fi 7 arrive et c'est compatible avec la nouvelle puce. Ça aussi, c'est un gros changement, parce que là, on n'a plus besoin de branchement physique. Là. Les gamers qui est encore accros au branchement par fil Ethernet, à leur machine, maintenant, t'as pas mal le même débit. Là. Moi, j'ai fait un essai, j'ai aussi un routeur Wi-Fi 7 et avec certains appareils compatibles, j'ai du gigabit sans fil d'un bout à l'autre de ma maison. Je suis assez impressionné. J'ai bien hâte de mettre à jour mon ordinateur pour en profiter aussi. Là, ça prend toute la chaîne. Là. Ça prend la puce qui va traiter les données à une vitesse suffisante. Ça prend aussi la carte mère qui va se connecter. Ça prend aussi la chaîne complète pour en profiter, c'est ça?
Exact, c'est ça. Ça va prendre, si on veut, le PC qui supporte le Wi-Fi 7, si on veut, la carte mère, comme tu mentionnais, Pascal, la carte, si on veut, sans fil, que ce soit intégrée ou une discrete, donc une carte qu'on ajoute à l'ordinateur, puis l'access point également qui va fournir ça. Puis une bonne connectivité Internet, là, parce que on vient des débits, des bandes passantes, on parle de 5.8 gigabits par seconde, donc comme tu mentionnais, on devient... On vient facilement compétitionner le réseau filaire, si on veut, avec l'Internet régulier là, qu'on a, si quelqu'un peut utiliser. Là, puis, parce que théoriquement, si on veut, on passe de 40 gigabits par seconde, mais on va dire le data rate, si on veut, continue que les gens vont voir. Là, avec le Wi-Fi 6, c'était plus 6, c'était plus dans le 2.5, 2.4 gigabits qu'on voyait, si on veut des maximums continus. Là, on va tomber en 5.8, c'est extrêmement rapide. Là. Puis la bande, la latence également, le temps, si on veut transmettre l'information, là, et on parlait de 10, 12 millisecondes avant, là, on va tomber dans les 1, 2 millisecondes. C'est un gros changement.
Oh boy. Ah ouais, ça déplace le fameux goulot d'étranglement, le bottleneck du réseau vers finalement ce qui va être la connexion avec le service Internet, parce que des connexions à 1 ou 2 gigabits, c'est déjà assez rare. Si on a du Wi-Fi qui en fait 5, c'est le fournisseur Internet qui va falloir qu'il ouvre les vannes un peu. Là.
Ah, ça va tirer tout le monde par en haut, puis on va voir le réseau cœur, si on veut, le core network, qui va se transformer et s'adapter là, avec tout ce qui est NFV, là, la transformation du réseau là, des fournisseurs Internet qui est en train de s'opérer avec la virtualisation dans le réseau. Ben, ça s'en va vers ça, si on veut, là, que ça va, ça fait partie là, de la transformation, si on veut.
Bon, c'est fou. Est-ce que c'est un peu essoufflant de votre côté? Ça doit être essoufflant, les gens qui ont parlé de Wi-Fi 6 il n'y a pas longtemps. Il y a du 6E qui était quand même pas rien l'année passée. Là, on tombe dans le Wi-Fi 7 qui commence. Est-ce que vous allez prendre une pause ou on parle déjà de Wi-Fi 8 à l'horizon?
J'ai pas encore. C'est clairement que c'est sûr que le consortium puis tout le monde travaille, là, si on veut, une standardisation d'aller après Wi-Fi 7. Là. C'est quoi les specs, mais la technologie continue tout le temps d'évoluer parce que notre usage continue d'évoluer. Vous savez, vous avez fait plusieurs podcasts, là, tout ce qui est AR, VR, ces choses-là.
Oui,
la bande passante qui va être nécessaire pour ça, regarde, ça va être incroyable. Fait que c'est sûr que la technologie continue d'évoluer. Puis, tu sais, pour ajouter à ça également, mais auparavant, on voyait moins ça, mais maintenant, il y a beaucoup de, on va dire, de trafic entre les différents équipements qui vont se parler entre eux. Autrement dit, mon PC qui parle avec l'access point pour dire c'est quoi le meilleur channel que je peux utiliser, le niveau d'encryption, ces choses-là, avec le AI. Donc, il y a une discussion de machine et machine qu'on avait moins auparavant, puis de plus en plus, on voit. Donc, ça fait partie des améliorations là, des nouveaux standards de communication avec le Wi-Fi également. Wi-Fi 7 inclut beaucoup ça, là, une meilleure façon de gérer non seulement le spectrum et l'interférence, mais aussi la connexion de machine à machine, si on veut.
Ah oui, c'est vrai, c'est un gros truc, ça, maintenant, avec les appareils intelligents et tout. Et d'ailleurs, ça commence maintenant. Je pense que les gens qui sont dus pour charger leur routeur, le Wi-Fi 7 arrive à marcher dans les prochaines semaines, je pense. Il y a déjà d'ailleurs des routeurs qui ont vu le jour. Même Pascal, je pense qu'on en a un à l'essai.
Oui, déjà des routeurs. Je vous en parle. Dès que j'ai la puce et tout, là, j'ai très, très hâte d'en faire l'essai. Je peux vous dire que déjà, la connexion est beaucoup plus rapide avec les appareils compatibles. Wi-Fi 6E, ceux qui sont compatibles Wi-Fi 7 encore plus rapide, mais vraiment, ça fait une grosse différence. Mais les routeurs, pour l'instant, sont encore coûteux. Ceux qui sont les routeurs Wi-Fi 7, là, ce que j'ai regardé rapidement, il n'y a pas encore de routeurs entrée de gamme Wi-Fi 7. Fait que ça va sûrement arriver, mais les premiers sont assez coûteux, merci.
Oui, ça va vraiment, je pense que c'est en 2024 que ça va vraiment décoller, là, que ça va devenir de plus en plus intégré à l'intérieur des puces directement, puis qu'il va y avoir un plus grand choix, si on veut, d'équipement là, Wi-Fi 7. Là. Mais c'est un... Ça va être un gros changement là, en termes de ce qu'on utilise là, pour notre réseau sans fil.
Oui, je pense que les gens se rendent pas compte du nombre d'appareils qu'ils ont chez eux. Ils disent « Ah non, j'ai pas beaucoup d'Internet, mais là, tu as ta télé connecté qui va diffuser du 4K, tu as ton laptop, ta tablette, ton téléphone, le téléphone des enfants, de la blonde, du chum, la laveuse connectée, les routeurs, les haut-parleurs connectés, tout ça se connecte au Wi-Fi. Bientôt, les écouteurs vont être connectés en Wi-Fi. On a vu ça du côté de Snapdragon qui ont des puces pour les écouteurs. Fait que ça fait beaucoup de choses connectées. Puis, ben, il faut que le routeur puisse offrir répartir intelligemment la bande passante dans tous ces appareils-là. Puis évidemment, on veut se débarrasser des fils dans sa maison. Fait qu'on va tous y gagner, je pense.
Exact.
C'est bon. Ça va être à suivre. En tout cas, c'est intéressant. C'est certainement des choses à savoir pour les gens qui magasinent. J'ai hâte de voir... c'est sûr qu'il y a du Thunderbolt 5 chez nous. Ça va rentrer dès que je peux avoir les périphériques parce que évidemment, ma caméra pointe dans ce sens-là, mais si vous voyez le bordel sur mon bureau à cause des câbles, tous les concentrateurs, les ponts, les je vous dis pas quoi, c'est fou, ça va être...
Un jour, on fera un podcast l'envers du décor, Alain.
Non, je veux pas.
Moi non plus.
Ah, Denis, tu te tiens? il va falloir me payer cher. Je vais dire ça comme ça. Denis Gaudreau, directeur national du Canada pour Intel. Intel. Merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant. Puis, écoute, on te réinvite parce que ça fait beaucoup. Là, on n'a pas encore déballé la moitié de ce que j'avais comme note. Ça va être super le fun de suivre ça. Bon automne, bon temps des fêtes et au plaisir de se reparler bientôt. Idéalement avant le Wi-Fi 8.
Ouais, c'est bon. Merci Alain. Merci Pascal.
Merci. On prend une courte pause et on revient avec nos gadgets à une tasse de tech. Restez avec nous.
De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget.
Et bienvenue à Une tasse de tech, dernier segment de cet épisode haut en technologie de pointe, je vais le dire comme ça. Et d'ailleurs, ça va faire un petit peu contraste parce qu'on parle souvent ici des téléphones dernier cri les plus hot du moment. Mm-hmm. Et nécessairement souvent aussi les plus chers, et c'est un peu un problème parce que mon Dieu, ça coûte cher des téléphones en 2023 et probablement ça va être la même chose en 2024. Mais pour faire, je veux dire, amende honorable, pour faire contraste ou pour vous aider à pas payer une fortune pour un téléphone qui fait à peu près la même chose qu'un autre téléphone qui coûte quatre fois le prix, on a deux téléphones. Je vais en parler en deuxième. Par contre, je vous présente tout de suite le Motorola Moto G Stylus, qui est un téléphone intelligent à écran de 6,8 pouces, qui a un stylet dedans. C'est vraiment ça son truc, d'où le nom Stylus. Comme le Galaxy S23 Ultra qui coûte 1500, je sais pas combien de dollars, celui-là coûte 300$. Je vous dis ça comme ça.
300$, c'est pas cher, là.
Pour un téléphone intelligent qui fait, et Motorola, vous savez, c'est du Android pur jus, là. Il y a pas de logiciel additionnel gonflable, vapeur, ou appelez-le comme vous voulez. et toi aussi, tu l'as, celui-là, Pascal, le Nothing Phone de la compagnie Nothing, qu'on connaît un peu moins ici, mais qui se veut une espèce d'alternative et ce téléphone-là a été qualifié le iPhone des téléphones Android parce qu'il a une certaine saveur particulière. Et qu'il est vendu. Je vais partir avec le prix, vu qu'on disait des téléphones quand même achetables. Ce téléphone-là coûte 929 ou 999$ en version à 128 ou 256 GB. Et pour tout le reste, c'est un téléphone Android dernier cri. Donc, c'est un téléphone qui est relativement abordable et qui, en plus, arrive avec une saveur particulière parce que comme c'est un téléphone, la marque Nothing a décidé que, en fait, c'est des anciens de Google, des anciens du secteur qui ont parti de cette compagnie-là en disant, nous, on va faire les choses différemment. Et là, vous achetez le téléphone, vous recevez le boîtier, vous l'ouvrez et vous avez un téléphone Android assez banal visuellement au premier coup d'œil avec un écran de 6,7 pouces, contour métallisé. On dirait un iPhone en fait, mais effectivement avec Android, vu que le format est vraiment similaire à celui d'un iPhone 12, 13, 14, 15. Et là, vous dites, bon, qu'est-ce que je peux faire? Là, vous le tournez à l'envers et vous voyez ce qui se passe derrière, c'est qu'on a un endo transparent. Qui permet de voir des espèces de circuits imprimés, pas des circuits électroniques très complexes, mais il y a quand même, ça bouge visuellement. Et ce qu'on réalise, c'est que il y a des bandes lumineuses, des bandes d'ailes derrière ça qui font des motifs que la compagnie Nothing appelle des glyphes. Et les glyphes sont essentiellement des alertes visuelles qu'on peut personnaliser, comme la vibration, comme la sonnerie du téléphone pour savoir si quelqu'un appelle, pour savoir si quelqu'un nous envoie un message. Bref, il y a plein de façons d'utiliser ça pour visuellement recevoir une alerte et s'en servir. Vous savez, on le tourne à l'envers sur la table et plutôt qu'avoir plein d'affaires qui se passent à l'écran et de se faire déranger par plein de bruit, ben on voit rapidement un petit visuel de ce qui... Et il y a des façons de l'activer et de le désactiver, mais évidemment, là, parce que j'en parle, j'arrive pas à le faire. Mais il y a possibilité, parce qu'il y a quand même plusieurs éléments d'ailes séparés, là. Je sais pas si je l'éteins, si ça va le faire.
Petit faux. Et ceux qui nous regardent, je vais pouvoir ici...
J'aimerais vous dire, je viens de le faire il y a une seconde, puis là, ça marche pas. Fait qu'allez savoir.
Ici, il y a le petit bouton qui permet de composer ses propres glyphes.
Plus d'alerte. Je sais pas.
On peut s'amuser à faire, ceux qui nous regardent sur YouTube, là, je suis en train de composer mes propres glyphes.
Ah, voilà, OK, c'était dans l'outil parce que ça, on peut aller dans l'outil de personnalisation et créer nos propres alertes selon différents critères, que ce soit... La personne qui envoie, que ce soit l'application utilisée, le type de contenu envoyé, puis ainsi de suite. Et il y a différents motifs qui sont proposés d'avance. Parce qu'il y a des dalles qui font une espèce de demi-cercle. Il y a des dalles autour de l'appareil photo. Et il y a différentes façons de les utiliser. Il y a une façon aussi, parce qu'il y a une espèce de bande d'ailes juste en haut du chargeur qui indique le niveau de recharge quand on le laisse activer, qu'on le branche et qu'il est en recharge. Donc, il y a des éléments visuels. Et c'est assez intéressant. Je veux dire ceci, ça ajoute ça explore une facette inexplorée de l'interface qu'on peut avoir avec les téléphones qui est autre que l'écran tactile, donc les yeux, les oreilles, ces choses-là. On parlait de gestuelle l'autre jour avec les montres connectées d'Apple et de Google. T'sais, on peut faire des gestes et activer des choses. Motorola le fait sur son téléphone avec, on fait des gestes et on peut aller faire certaines fonctions automatiques. Et là, on ajoute cette option visuelle-là qui est intéressante. Évidemment, pour faire la différence entre un téléphone Samsung et ça, il y a une marge. Il faut vraiment vouloir les glyphes pour dire c'est ça qui fait la différence. Mais c'est un bel ajout. Et pour tout le reste, le téléphone est assez intéressant. Je veux dire, il y a au niveau visuel, au niveau de l'interface utilisateur, au niveau d'Android, il y a aussi une grosse couche esthétique rajoutée par les gens de Nothing pour s'apparenter à l'image de la marque. où on joue un peu un petit côté un peu rétro, je dirais. C'est très noir et blanc, c'est très c'est des gros éléments visuels. Et ça aussi, ça ajoute une couche. Oui, ça fait du bien parce que c'est différent, surtout parce qu'on est à force de voir les interfaces des grands fabricants, des Google, des Samsung, tout ça, ça change un peu le mal de place, donc ça fait du bien, ça rafraîchit. Mais ça, évidemment, c'est pas entièrement parfait parce que ce sont pas toutes les applications qu'on peut personnaliser à l'interface du téléphone. Le fameux lanceur, le launcher que Nothing propose sur ce téléphone-là. Sinon, pour le reste, écoutez, il y a caméra frontale 32 mégapixels, donc ça fait des super selfies. À l'arrière, on a deux objectifs avec un capteur de 50 mégapixels. Ça permet de prendre évidemment des photos tout à fait correctes. Deux objectifs, 50 mégapixels, c'est très bien, mais et j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour, mais c'est rendu pas mal la norme. C'est pas rien d'exceptionnel. Oui. C'est pas mal tout à fait tous les téléphones banal. Font de base. Ben oui, ben c'est ça.
Du côté Android,
effectivement. Et sous le capot, ben on a un processeur Snapdragon 8 Plus génération 1. Donc c'est pas le plus récent, c'est pas le dernier des derniers processeurs de Qualcomm, c'est celui de l'année passée. Donc est-ce que le téléphone va vieillir plus rapidement? Ben oui, probablement, peut-être pas tant que ça.
C'est ça, c'est un téléphone fiable, hein. C'est un processeur fiable, c'est le même que dans le ThinkPhone de Motorola.
Et voilà, donc, c'est un processeur effectivement qui va faire la job, cela dit.
C'est ça.
Donc c'est une belle bébé, c'est un appareil qui coûte un petit peu moins cher et qui surtout va vous démarquer dans les parties de Noël parce que visuellement c'est un téléphone qui est complètement différent des autres. Vous avez peut-être vu si vous nous regardez sur YouTube ou sur Facebook, il y a deux versions, blanc-gris et noir, donc vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais les dells derrière sont blanches, peu importe. Et ça fait un téléphone original. L'autre téléphone, c'est le Moto G Stylus. J'en parlais tout à l'heure. C'est une joke. À 300$, c'est comme, posez-vous même pas la question. Si vous voulez absolument un stylet sur votre téléphone, go. Oui. Au pire, vous l'en achèterez un autre dans 2 ans. Je veux dire, c'est tellement pas cher que c'est un prix réduit parce que Motorola est très agressif ces jours-ci à l'approche des fêtes pour vendre ce téléphone pas cher. Ce téléphone avec un écran plein HD+, donc adapté évidemment au format allongé de l'appareil, qui fait 6,8 pouces de diagonale, rafraîchissement 120 Hz, donc un écran tout à fait correct. Il y a une pile là-dedans de 5000 mAh, donc 5 ampères-heure, si vous voulez qu'on réduise à la plus simple expression de la chose. Ça donne 2 jours d'autonomie. Ça, c'est un autre truc. On peut l'utiliser toute la journée, aller faire dodo ailleurs, oublier son chargeur, revenir, il reste encore de la batterie pour le lendemain. Donc, il y a vraiment peu de stress de ce côté-là. Même chose, hein, caméra à 2 objectifs de 50 mégapixels à l'arrière, caméra frontale de 16 mégapixels. Évidemment, pour arriver à 300$, on coupe à certains endroits. Par exemple, le boîtier est assez ordinaire. C'est un boîtier bleuté dans un polymère semi-plastique. Et on a sous ce boîtier un processeur Snapdragon 695. Donc ça, c'est un vieux processeur. C'est un processeur de... il y a quelques années, qui était même pas de milieu de gamme à ce moment-là, qui était une petite affaire en bas du milieu de gamme. Donc, c'est pas l'appareil le plus puissant qui va vous durer le plus longtemps. Et c'est pas l'appareil qui vient d'être mis en marché. Ça fait quand même quelques mois qu'il est déjà en vente, mais on en parlait très peu parce qu'on l'avait pas. Moi, j'ai pas eu accès avant jusqu'à tout récemment. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a pas de recharge sans fil Qi, là. Vous savez, la recharge, sans fil exactement, qu'on met juste sur un petit socle. Et il y a seulement 128 gigaoctets de stockage interne. Il y a aussi de base Android 12. Il faut attendre que la mise à jour s'en vienne pour d'autres versions d'Android. Donc, c'est un peu limité, mais la particularité, évidemment, vous le savez, comme son nom le dit, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il vient avec un stylet. Donc, il y a vraiment cette fonction-là où vous pouvez, même l'écran verrouillé ou partout dans le téléphone, commencer à gribouiller, prendre des notes. C'est vraiment pour les gens qui font ça spécifiquement avec leur téléphone. Oui. Ça fait la job pour ça parce qu'on peut écrire et rapidement ça devient une façon d'utiliser le téléphone qu'on adopte facilement et il existe plein de façons ensuite de traduire ça en image ou en texte informatique, je voudrais dire en texte numérique et donc ça fait une façon d'utiliser le téléphone qui est différente qu'on trouve sur à peu près pas de téléphone et à ce prix-là, ben si c'est le genre de format, c'est quelque chose qui, tu sais, si vous ennuyez c'est un téléphone qui fait un petit peu sérieux, là, si vous ennuyez d'un vieux BlackBerry ou d'un vieux téléphone dans ce genre-là, d'un vieux Palm même, ben, il y a cette option-là qui existe. Et à 300$, c'est vraiment une bonne offre.
Un bon prix. Le Stylus, là, c'est un bon téléphone. Si vous cherchez un téléphone pour une personne plus âgée, le stylet, c'est très apprécié pour prendre des notes rapidement sur son téléphone, pour faciliter simplement taper sur les icônes avec un stylet. Les personnes âgées apprécient beaucoup. Puis le fait d'avoir une bonne autonomie, encore une fois, une personne âgée moins à l'aise avec la technologie va pouvoir en tirer beaucoup plus de plaisir. Elle va pouvoir oublier le charger une journée puis avoir un téléphone à portée de main. Puis voilà. C'est pas trop gênant de l'offrir. Puis Motorola, comme tu l'as dit, l'interface est assez épurée d'habitude. C'est pas un mauvais achat pour ce type de clientèle.
Bon point, merci d'ajouter ça, c'est vraiment intéressant. Donc, les Nothing Phone et Motorola Moto G Stylus, des options pas chères, parce que les fêtes approchent, ça peut être une bonne idée de regarder de ce côté-là. Toi, de ton côté, tu as une clé USB Kingston qui me semble tout à fait intéressante, là.
Ah, écoute, j'ai trouvé ça très, très, très drôle, parce que on stocke de plus en plus ces données dans les nuages. Mm-hmm. Moi, j'ai plus confiance dans les serveurs de Microsoft, puis de Google, puis d'Apple, que de mon ordinateur personnel. On dit que dur peut briser, peut passer au feu, panne d'électricité, surcharge. Mais c'est le fun d'avoir une copie de ces données dans sa poche, qui n'a pas besoin de transfert, surtout pour des gros fichiers, quand on n'a pas une connexion Internet très rapide, un fichier de plusieurs gigs, des vidéos, des collections de photos, on veut en garder dans son à portée de main. Je suis tombé sur le Iron Key de Kingston, une compagnie qui fait du stockage, qui a, il y en a deux modèles, j'ai le modèle Keypad 200, et j'ai le modèle C, qui a un port USB-C. Il y a le Iron Key Keypad tout court, 200 tout court, qui a un port USB-A standard. Ce qu'il y a comme caractéristique, c'est que sur la clé, il y a un petit pavé numérique, un peu comme les téléphones à touche, les téléphones touch-tone, c'est tout ça. Avec chaque chiffre, 1. Sur le 2, il y a ABC. Sur le 3, il y a le DEF. Sur le 4, il y a GHI. Et ça permet... Pour ouvrir la clé, pour y accéder, faut composer la combinaison sur le petit clavier sur la clé.
Wow.
Très, très drôle. La clé se glisse dans un étui en aluminium si on veut protéger sa clé. Ça donne une bonne résistance à l'eau et à l'immersion. Et là, c'est assez fantastique parce que Kingston indique qu'ils ont des standards militaires de codage des données dessus. Si on a on ne déverrouille pas la clé, elle est pas reconnue, elle apparaît tout simplement pas. Comme on tape le code sur la clé, on peut l'utiliser sur n'importe quel appareil, USB, Linux, Mac, PC, sans installer de logiciel. Très, très chouette. J'ai beaucoup aimé cette option-là. Ça fait très James Bond de sortir sa clé USB, de taper la combinaison. Il y a une petite lumière d'elle qui s'allume, verte, ça clignote. Ça fait très, très, très mission impossible. Là. Tu tapes le code, tu passes sur le déverrouiller, la petite clé, ça déverrouille en vert si évidemment on tape le code. Si on utilise plus de 10 fois la combinaison, la mauvaise, la clé va s'effacer pour être de façon irrécupérable. On va embrouiller les données pour que ne pas que ce soit récupéré. On peut évidemment créer un mot de passe administrateur. Donc, on a un deuxième niveau de possibilité de déverrouiller. Si jamais on peut activer un mode ou si on tape 10 fois, la clé va se désactiver, mais on va pouvoir la réutiliser ou l'administrateur va pouvoir redonner le code. C'est assez flyé côté sécurité. Il y a une deuxième clé qui est le Iron Key tout court, qui, elle, n'a pas de pavé numérique. Quand on insère la clé dans son appareil, il y a un petit... c'est le lecteur de CD, l'ouverture automatique d'application qui va démarrer, qui va démarrer un petit logiciel qui va permettre de taper un mot de passe. Donc, on le tape avec son clavier. Ça peut être jusqu'à 60 caractères. Ça peut être une phrase de passe. Si on veut pas que quelqu'un fasse du keylogging, quelqu'un mette un petit logiciel dans son ordinateur qui enregistre tout ce qu'on tape au clavier, il y a un clavier virtuel qui peut apparaître à l'écran. Donc, on peut taper avec sa souris ou avec son doigt, si c'est un écran tactile, le code. L'inconvénient que je vois de cette solution-là, c'est que dans mon cas, mon ordinateur, le démarrage automatique des applications par une clé USB était désactivé. J'ai donc dû bidouiller pour l'activer si vous travaillez dans certaines entreprises par défaut pour des raisons de sécurité. Tout à fait légitime que si on met une clé dans son ordinateur, ça démarre pas. Donc, j'ai eu à bidouiller pour activer ça. Donc, vous avez les deux versions. La version avec le code dessus qui est très, très chouette. La version qui fonctionne avec un petit logiciel qu'il faut déverrouiller. Le truc qui est très drôle, c'est qu'au moment où j'ai reçu ça et j'essayais ça, il y a un article de Wired qui apprend que quelqu'un avait stocké des clés de crypto-monnaie dans une Iron Key.
Ben oui.
Et les oublier le mot de passe. Et une entreprise de sécurité a mis beaucoup de ressources là-dessus et ont trouvé une façon de récupérer, auraient trouvé une façon de récupérer de façon sécuritaire, ce que Wired confirme en leur envoyant des clés. Ils ont réussi à décoller. Fait que c'est pas parfaitement inviolable, même si c'est de l'encryption de haut niveau. Je pense que pour un commun des mortels, ça peut être amplement suffisant. Entre autres, si on essaie de briser la clé, ça se désactive aussi, il y a plein de belles mesures. C'est pas parfaitement inviolable. Il y a aussi le fait que ces clés-là sont pas données. La clé 200C, elle est autour de $188 pour le modèle 64 gigs.
OK, quand même.
Pas donné. L'Iron Key, qui fonctionne sans petit pavé tactile qu'il va falloir entrer le logiciel, coûte $200 pour 128 gigs. Donc, il y a des versions de capacité moins élevées qui sont moins chères à partir de $50. Si vous avez des données, peut-être, je sais pas, des choses comme un testament, des clés de crypto-monnaie, des photos coquines, disons-le, on est entre adultes, peut-être qu'une clé comme ça pourrait vous donner un bon niveau de sécurité.
Un petit répit, oui, si ça pourrait
vous,
protéger.
Même si vous échappez la clé, ainsi de suite. Je trouve ça très drôle parce que quand tu configures ta clé, tu peux mettre un message quand tu branches ta clé qui dit « Hey, cette clé a été perdue, contactez telle personne. » Mais tu le sais, j'espère que si tu trouves une clé USB, c'est pas une bonne idée de
la brancher dans ton ordinateur. Je vais essayer une clé USB prise au hasard par terre. Ouais.
Ben c'est ça, c'est un truc que les pirates utilisent. Tu laisses une couple de clés USB traîner près d'une entreprise où tu veux t'infiltrer et la clé à ce moment-là va activer justement un petit logiciel automatique qui va faire
ça automatique. Ben oui.
Et c'est pour ça qu'on désactive dans beaucoup d'entreprises la lecture automatique des logiciels à partir d'une clé. Alors, soyez prudents, mesdames et messieurs, avec la sécurité. Les clés voilà. Iron Key de Kingston, j'ai fait un billet là-dessus sur mon site. J'aimerais vouloir avoir plus de détails sur les petits pépins techniques que j'ai trouvés, que j'ai eu pour démarrer le logiciel pour que ça fonctionne bien.
Bon, voilà, vous irez lire ça, les amis. Ça va avoir le temps parce que pour nous, c'est la fin, Pascal, déjà, de toute façon. On va aller recharger nos piles. Ils sont pas nécessairement au lithium, mais qui ont quand même besoin de faire le plein de temps en temps. Moi, je suis dû pour un autre café, ça tombe bien. On va pouvoir aller, je vais aller me caféiner pour finir la journée du bon pied, n'est-ce pas?
Avec la machine Jura 8.
Ben voilà, puisque c'est un commanditaire, on remercie Jura, TELUS et Plan Hub. Je laisse faire le générique, Pascal, c'est ton truc, tu le fais bien.
Ah ben non, mais tu le fais bien aussi. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast. Alain, j'ai confiance, va avoir réussi à intégrer la partie de...
Bon, merci les gens d'Intel, parce que si, oui, dedans. Effectivement, leur patience voilà. A été mise à prix là-dessus, effectivement.
Claude Hébert, la mise en onde. Alain Mécanon, on peut te lire un peu partout dans Le Devoir, entre autres, pascalforgette.com pour me lire. Je donne aussi de la formation sur Microsoft 365, si jamais ça vous intéresse. On se revoit la semaine prochaine, Alain, avec d'autres nouveautés. J'ai bien hâte.
Effectivement, moi aussi. Clairement, je t'ai pas rendu dans ma tête. Mais oui, effectivement, on se revoit la semaine prochaine. Pourquoi? Pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.
C'est 23.